Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour évoquer le 20e Grand Prix de la saison au Mexique. Salut Stéphane, revenu de vacances, oui. Frais et dispo. Est-ce que tu as trouvé les cités d'or?
Non, du tout.
Et Esteban, Zia, tout ça.
Ouais, c'est ça, où il y avait tout le temps des tremblements de terre. Les... Ouais.
Exact. Bon, c'est des années 80, là, ouais, qu'on est clair. En train d'exhumer des dessins animés. Quand la première place change de main à 4 épreuves du terme du championnat, c'est toujours un événement. Et avec sa 6e victoire cette saison et son cavalier seul, sa masterclass, Lando Norris a repris la main à un moment clé cette saison. Est-ce que ça serait pas le moment là pour McLaren de siffler la fin de la récré et de se concentrer sur un seul pilote? On va évoquer cette situation très particulière de McLaren, de Norris et de Piastri. Ce Grand Prix de la ville de Mexico qui a été marqué aussi par pas mal de libertés hein, prises par les pilotes avec l'autodrome des frères Rodriguez. Trop en tout cas pour que la direction de course puisse suivre et n'évite de se perdre en route. On reviendra sur les décisions ou les non-décisions qui nous ont interpellés ce week-end. Et puis à Mexico, on a failli avoir un pilote de 20 ans sur le podium, mais Oli Bierman a dû se contenter de la 4e place. On voulait profiter de cette occasion pour faire un point sur les performances des rookies cette saison et tirer un premier bilan de 2025 pour les débutants. On débute donc avec Lando Norris qui a remporté sa 6e victoire ce week-end à Mexico et associé à la 5e place de Oscar Piastri, ça lui a donc permis de reprendre la tête du championnat. Position Stéphane qu'il n'avait plus occupée depuis la fin du Grand Prix d'Arabie Saoudite, donc depuis le 20 avril. 6 mois sans être leader du championnat et il retrouve la première place. J'ai envie de dire à un moment clé, c'est le meilleur week-end de McLaren depuis le Grand Prix de Hongrie, donc avant la trêve, hein, 35 points marqués au Mexique contre 43 à Budapest. Et c'est aussi la première victoire pour McLaren depuis Zandvoort, donc depuis la reprise de la saison. Déjà, cette victoire de Lando Norris, elle arrive au bon moment et elle arrive en plus en délivrant un message. Il gagne avec plus de 30 secondes d'avance. C'est rare, un tel écart.
C'est très rare. C'est même seulement la 6e fois en 10 ans que ça arrive. Il faut remonter au Grand Prix de Chine en 2016 pour voir Rosberg. Et puis après, tu as une alternance Hamilton-Verstappen, vainqueur avec plus de 30 secondes d'avance, donc ça c'est vraiment le fait des plus grands. Ce sont des champions du monde et Norris c'est peut-être le prochain champion du monde sur la liste, c'est le dernier en tous les cas, Mexico City 2025. Et ça me faisait penser à toujours la même chose, je l'évoquais ici, les points bonus en rugby, quand tu marques 4 essais, quand tu as fait du spectacle, quand tu as fait une masterclass, quand tu as fait quelque chose d'exceptionnel, eh bien ça vaut un petit point supplémentaire ou deux, je ne sais pas, mais ça vaut quelque chose en plus parce que Il a été impressionnant. Il n'était pas obligé de gagner avec 30 secondes d'avance. Il pouvait se contenter de 10 secondes. Après, faut toujours faire attention.
Une sorte de bonus offensif.
Mais bien sûr, bien sûr. Et même, je t'avais parlé ici aussi d'un bonus défensif. C'est la même chose. Quand un pilote à 10 tours de la fin est deuxième, qu'il est à 5 secondes et qu'il fait l'effort pour revenir sur le premier et qu'il crée du suspense, eh ben, ça vaut quelque chose en plus s'il termine à moins d'une seconde du vainqueur. Ça, il faudrait y penser plutôt que d'essayer de nous parler de grilles inversées, de choses comme ça, de gadgets dont on n'entend plus parler. Hein. Le meilleur tour en course, il est passé aux oubliettes. C'est bien la preuve que il n'avait pas d'existence propre. Mais là, franchement, une masterclass, 30 secondes d'avance, oui, ça vaudrait quelque chose en plus.
Bah, alors, je trouve ça une bonne idée. Je suis surpris que ce soit toi qui la propose. Non pas que t'as pas de bonnes idées, mais parce que on sait que t'es un rigoriste de la Formule 1. Et là, c'est quelque chose.
C'est une notion du spectacle. C'est
ouais,
pour...
Je suis d'accord.
Non, mais là, on récompense. C'est pas une question d'artifice. C'est vraiment, il a envie d'être impressionnant. Il peut le faire. Il le fait jusqu'au bout. Bah, allons-y. C'est voilà. On donne une prime à ça. C'est tout.
Alors, ça nous a donné aussi la curiosité de nous intéresser à la façon dont se déroulaient les week-ends, parce qu'on a bien vu hein, qu'il y avait un Lando Norris qui marchait quasiment sur l'eau au Mexique, et un Oscar Piastri qui a été en difficulté du début jusqu'à la fin. Et tu nous as sorti un petit tableau de ta création qui est une sorte de scan, un week-end type du top 3 du championnat. Faut que tu nous l'expliques. Il est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, ça décrypte vraiment la façon dont chaque pilote de ce top 3 vit ses week-ends.
Écoute, regarde, en fait, voilà, on a quelques chiffres ici. C'est les meilleurs temps en essai libre ou en partie de qualification, ou alors les vainqueurs de les victoires en Grand Prix et le meilleur tour en course. Et on voit que Norris met une empreinte très forte dès les premiers tours de route, dès le vendredi, alors que Piastri monte un peu plus en puissance. Et là, ça coince, hein, d'ailleurs, derniers temps.
Je donne une petite tête de lecture. Ce qu'il faut lire, par exemple, dans la première colonne, c'est que 9 fois cette saison, Lando Norris a fait le meilleur temps lors de la première séance d'essai libre. Ça n'a été que 3 fois pour Piastri. Ça a été une seule fois pour Verstappen. Voilà. Et vous prenez colonne par colonne et c'est comme ça que ça se passe. Et ça veut dire qu'on a le sentiment que Norris, il est tout de suite dans le vrai, alors que par exemple un Verstappen, une seule fois meilleur temps en essai libre 1, une seule fois libre 2, libre 3, enfin ça veut dire en gros ils arrivent, la voiture elle est quasiment tout le temps à l'envers.
Bien sûr, Norris a besoin de cogner tout le temps, et je pense que ça c'est impressionnant, et ça c'est peut-être aussi ce qui tape sur le moral de Piastri, qui est en déliquescence. Là, sur ces chiffres, il n'y a pas un chiffre qui a bougé dans aucune colonne de Piastri là, depuis sa masterclass à Zandvoort. Il fait pole position, vainqueur, meilleur tour en course, leadership de bout en bout, et depuis, plus rien, pas un seul meilleur temps en essai libre, en partie de qualif, ni rien du tout. Il s'est complètement éteint là-dessus. Ça fait 5 grands prix que ça dure. C'est une tendance qui est extrêmement inquiétante, qui, pour moi, est plus révélatrice même que la perte du premier poste au classement du championnat du monde des pilotes juste pour un point, c'est pas grand chose, mais là ça dit quand même beaucoup de choses. Il est assez éteint, et puis alors Verstappen, effectivement, on voit que la voiture ne fonctionne pas très bien le vendredi, même en essai libre 3 le samedi, et puis ils arrivent à trouver des choses, mais c'est magique, c'est extraordinaire. Et puis tu vois ce que ça donne tout de suite en Q1, il est là. Et puis en Q3, ça fait 7 pole positions en tout, contre 5 pour Piastri et 5 pour Norris. On voit qu'il y a différentes dynamiques qui se mettent en place. Et là, Piastri, je trouve qu'il est nulle part. Et ce qui est même un peu inquiétant, c'est que on nous a sorti des explications sur le fait que Austin n'était jamais performant, ou que la McLaren n'était pas configurée pour ce circuit. On reviendra aussi sur les problèmes qu'il a eu à Mexico, mais ça fait 5 grands prix à peu près qu'il y a une excuse à chaque fois. Et là, ça, c'est pas possible. Moi, quand je regarde les trajectoires de gens comme Schumacher, Hamilton, Vettel, Verstappen, les plus grands du 21e siècle, jamais
ils n'ont pas eu
un trou d'air pendant 5 grands prix. Ça peut marcher moyennement sur un ou deux circuits, mais après, ils se reprennent très très vite. Et là, ça veut dire que Piastri n'a pas une réponse technique, tout simplement. Pourtant, la voiture, elle fonctionnait très très bien de l'autre côté du garage. Et ben Piastri, en fait, il avait du mal à piloter cette voiture. Et souviens-toi d'une chose, d'ailleurs aussi, c'est que l'année dernière, Norris, en deuxième partie de saison, il disait « mais cette voiture était fantastique, j'en faisais ce que je voulais ». Il avait trop de retard au championnat pour challenger Verstappen et lui contester le titre. Et cette année, les premières choses qu'il a dites, c'est « j'arrive pas à piloter cette voiture, je me sens pas bien dedans, et c'est pas mon pilotage naturel ». Et là, il revient un petit peu plus sur des choses qui lui conviennent. Et là, Piastri, par contre, est complètement à côté de la plaque. Et c'est inquiétant parce que là, il sèche complètement.
Piastri reprend des éléments maintenant qui étaient employés, d'ailleurs, par Lando Norris là, sur les interviews après le Grand Prix au Mexique. Il disait qu'il faut qu'il change sa façon de piloter. Sauf que quand on a fait toute sa carrière et les 18 premiers Grands Prix de la saison d'une certaine manière et qu'il faut changer des choses, c'est très, très compliqué. Et il y a un petit peu urgence à le faire, tu le disais. Alors pour Oscar Piastri à titre personnel, parce qu'il est désormais dépossédé de la première place du championnat, pour un point c'est pas grand chose, mais symboliquement c'est quand même important. Mais plus largement pour McLaren, parce que l'écart avec le mieux placé des pilotes McLaren, donc c'était Oscar Piastri, maintenant c'est Lando Norris, il est passé de 104 points par rapport à Max Verstappen à 36 au moment où on parle aujourd'hui. Il en reste 116 encore à attribuer. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être se résoudre, la mort dans l'âme chez McLaren, à désigner un pilote prioritaire pour aller décrocher le titre. Je trouve que c'est Lando qui est devant. Alors, on est désolé, Oscar. Bon, mais là, il faut vraiment arrêter. En fait, on plaisante un peu, mais dans l'idée, il faudrait sonner la fin de la récré maintenant, mais ils peuvent pas le faire maintenant parce que Norris vient de passer devant. Ça serait tellement difficile à avaler. On leur tomberait dessus. Là, la plaisanterie que je viens de faire, elle serait multipliée par mille. On ne peut pas, et pourtant, c'est le moment où il faudrait dire, bon, allez, stop, on arrête de jouer. 36 points d'avance. Quand tu vois sur les prochains Grands Prix, ce que ça peut donner, c'est assez inquiétant, en fait, pour McLaren. D'abord, tu nous parlais des circuits sur lesquels Piastri avait régulièrement des trous d'air. Je suis revenu les deux dernières saisons, puisque Piastri a commencé en 2023, sur le comparatif. Oui. On a toujours fait, depuis que Piastri est là, on a toujours fait l'enchaînement Austin-Mexico. À chaque fois, si tu regardes, 2023, Norris marque 33 points sur l'ensemble des deux Grands Prix. Piastri, 4 points. Bon, tu vas me dire, c'était sa première saison, oui. Mais 33 à 4, c'est quand même un gros delta. 2024, l'année dernière, 36 points pour Norris, donc il augmente un petit peu son total, 14 points pour Piastri. Ça fait encore 22 points d'écart. Là, cette année, 43 points inscrits par Norris, 20 seulement pour Piastri, 23 points de perdu. Il y a toujours effectivement ces circuits qui ne lui conviennent pas. Alors on nous dit que c'est parce qu'il y a moins d'adhérence et qu'il est moins fort là-dessus.
Ça fait rien, il ne trouve pas de réponse et là c'est quand même particulièrement inquiétant.
Ouais, alors, c'est surprenant.
Je reviens sur la gestion de McLaren. À Austin, la responsabilité de double abandon au départ du sprint, elle est pour Piastri. Clairement, c'est 100% pour lui. Tu revois la scène, t'enlèves la voiture de Piastri, il se passe rien. C'est tout. Il prend un risque démesuré en braquant d'un seul coup. Il prend une largeur de voiture d'un seul coup. Il y a Hülkenberg dans son environnement. Accrochage, ça fait domino. Il élimine Norris. Et là, si tu vois bien, la réaction de Zak Brown, c'est son réflexe, c'est de protéger ses deux pilotes parce qu'il sait qu'il y a un coupable. Et il se jette sur Hülkenberg en disant, ouais, il a rien à faire là. Hülkenberg, ouais, c'est pas le genre à faire des choses assez inconcevables.
Il s'est excusé le lendemain.
Tout à fait. Mais
on l'a évoqué avec Jap la semaine dernière en disant, c'est quand même une preuve de fébrilité de l'ensemble de l'équipe,
alors,
je trouve.
Oui, mais il pouvait pas. Là, il aurait fallu qu'il accuse Piastri. Et là, au contraire, ils veulent le protéger. Ils savent que depuis Monza, ça va pas, et qu'il faut essayer de lui construire reconstruire un mental, parce que franchement, là, il est dans une dynamique vraiment négative.
Très compliqué, ouais.
Et donc, il pouvait pas se permettre de pointer un pilote. Et puis, il avait un avantage depuis cette histoire de l'accrochage au départ à Singapour. Il pouvait choisir son ordre de sortie en qualif, etc. Ils l'ont annulé. Moi, je pense que McLaren a mal joué le coup. Après Austin, il fallait non pas ajouter une règle supplémentaire aux règles papaye, mais dire l'ordre en qualif des deux voitures, ça doit être l'ordre à la fin du premier tour. Vous n'avez plus le droit de vous attaquer sur le premier tour. Plus aucune manœuvre de mise en danger de l'autre McLaren. Parce que c'est ce qui est arrivé. Ils se touchent à Singapour, ils se touchent au sprint à Austin. Ça fait c'est deux exemples de trop. Et pour moi, plutôt parce qu'il y avait une forme d'agacement de Piastri qui réagit de façon... Là, on dit qu'il est très très froid. Et là, il a été impulsif. Et là, tu te dis, il devient quelqu'un d'autre. Et c'est un danger. Et maintenant, là, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. On est presque à une distance de tir, hein, de
vers bah, 36 points.
On y est presque. Ça veut dire qu'on prochain peut plus se permettre de faire des choses comme ça.
Prochain Grand Prix, les deux voitures s'éliminent et on y est. Et là-dessus,
ça permettrait quand même d'avoir un certain conservatisme et d'assurer des choses de pas, parce que autrement, si on a encore un coup de malchance comme ça, c'est terminé. Et puis on sait que Verstappen, il va ramasser.
Mais même sans ça, si tu veux bien, Stéphane, si on se projette sur les quatre prochains Grands Prix, Brésil, voilà, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi. En 2024, si on reprend, on va commencer par 2023. Donc en 2023, sur l'ensemble de ces trois Grands Prix, la configuration était un petit peu différente puisque le Qatar était avant Austin-Mexique. Mais sur ces quatre Grands Prix, j'ai quand même compilé les quatre Grands Prix, Norris avait marqué 57 points, Norris 36.
Piastri 36.
Voilà. Donc là, on a encore un gros delta de 21 points. En 2024, l'année dernière, 59 points marqués par Norris sur ces quatre Grands Prix, 41 pour Piastri. Donc là, l'écart se réduit un petit peu, on est à 18, mais il y a quand même encore un delta. Et surtout, regarde la colonne Verstappen, parce que là, on a comparé Norris et Piastri.
Ah, oui.
Tu regardes Verstappen, 2023, bon, 2023, il écrasait tout sur son passage, 117 points contre 57 quand même, c'est-à-dire plus du double. Hein. Et en 2024, 75 points, c'est-à-dire 26 points de repris sur ces quatre Grands Prix. Il est à 36 points. Rajoute un incident pour McLaren et Verstappen peut aller chercher le titre avec ses chiffres.
C'est pas le discours d'Andrea Stella, le directeur d'équipe de McLaren, qui dit on est plus fort qu'avant par rapport à Verstappen. Je sais pas d'où il sort ça. Parce que c'est vrai que
par rapport à 2023, oui.
Ouais, mais ce qui les a revigorés, c'est le fait qu'ils savent que la McLaren peut de nouveau bien fonctionner. Ils nous disent qu'ils ont compris comment remettre la voiture dans une certaine dynamique. Moi, je pense que là, chaque Grand Prix sera un cas particulier.
Ouais, je suis d'accord.
À la fin de la saison,
d'accord.
Et qu'il y aura des trous d'air.
Ouais.
Il y a parfois, ils seront complètement à côté de la plaque le vendredi, et puis ils vont ramer pour revenir le samedi. On n'en sait rien du tout, mais dire aujourd'hui, non, mais attendez, tranquille, ça va le faire. Mm-hmm. Et puis, Piastri est dans une période de construction. Il est dans sa troisième saison de Formule 1. On ne le dit jamais assez.
Oui, c'est pas beaucoup.
Il y a des circuits qui visitent pour la troisième fois simplement. Ça suffit pas, c'est vrai, pour se faire un background de ce qu'il faut faire et pas faire sur tel ou tel circuit. Mais il devrait quand même, déjà, avec
le simulateur
technique qu'il a. Exactement.
Le simulateur, je suis quand même un petit peu surpris qu'il n'arrive pas mieux que ça à appréhender certains circuits. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut en revenir à cette question maintenant. Est-ce que ça serait pas le moment, là, de... Justement, pour McLaren, de dire, bon, stop, on arrête de jouer et on y va. Le problème, c'est, j'en reviens à ma question, t'as pas répondu, alors je veux ta réponse. Ils peuvent pas le faire, là, parce que Norris vient de passer devant. Mais non, n'empêche que ça serait le moment, là.
Non, il faut le faire au gré des circonstances. S'il y a un doublé qui se dessine, Norris Piastri, même à mi-course, que Piastri est deuxième, Piastri doit défendre la place. Et faire en sorte que Verstappen ne le dépasse pas ou n'aille pas chercher ensuite Norris. Il faut protéger ça et faut expliquer aux deux pilotes que l'un se mettra au service de l'autre en fonction des circonstances, mais il faut surtout pas en sacrifier un.
Compliqué,
ça va faire un frustré et ils seront plus perdants au bout du compte que s'ils avaient essayé de ménager encore les deux pilotes en fonction des circonstances. Alors cette histoire d'ailleurs de Monza, on nous la ressort sans arrêt. Je comprends pas. Enfin, c'est là, on est en train de feuilletonner un truc. Ça en devient même presque ridicule. C'était légitime ce qu'ils ont fait. Ils avaient inversé une position de rentrée des stands. Ils étaient responsables de cette inversion de position. C'était possible de le faire dans les médias. Ils l'ont fait. C'était pro. C'était bien. Et les gens qui critiquent aujourd'hui, je les entendais pas au début des années 2000. Quand Ferrari faisait des inversions de position aussi, quand Barrichello était devant.
Ah non.
Et quand les arrêts au stand étaient un petit peu plus longs, comme par hasard, ou alors quand Barrichello était... Oui, d'accord, mais moi, je les entendais pas comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie quand même d'avoir de l'équité. C'est ce que McLaren a essayé de faire entre Prost et Senna, c'est explosé en plein vol. On a vu comment. Ça a tenu à peu près chez Mercedes pendant 4 ans, entre Rosberg et Hamilton, et la preuve que, là aussi, c'est pareil, il y avait un gros travail de Wolff, et des fois, ça a quand même frotté très très dur. Mais ils n'ont jamais désigné un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, et c'est ce qu'il faut faire. Parce que autrement, bah oui, effectivement, on a Prost et Senna, ça explose, et puis après on dit, ah bah dommage, on a bien aimé ces deux saisons, c'est extraordinaire, et maintenant on a cassé le jouet. Donc, ils ont des pilotes encore sous contrat 2026-2027, mais la question quand même, qui doit commencer à tarauder Zagron.
Je suis sûr que
c'est. Est-ce qu'il re-signe Piastri encore?
Oui.
Est-ce qu'on met une pièce dans la machine?
J'étais sûr que t'allais
me
dire. Mais tu peux inverser. Est-ce que Piastri il a envie de rester dans une équipe ou même en tant que leader du championnat?
Mais là, il s'écroule complètement. Ben il n'a pas d'argument.
Il s'écroule après avoir mené le championnat pendant 6 mois et ne jamais avoir finalement bénéficié de ce statut de numéro 1 du championnat.
Mais il n'était pas question d'avoir un statut
Je
numéro 1 de toute façon.
La question se pose dans les deux sens.
Il n'a jamais mené le championnat avec plus de 34 points d'avance sur le deuxième. Donc ça veut dire qu'il n'était pas question, même à mi-saison, de dire on met tout sur un pilote et on sacrifie l'autre. Ça n'aurait pas de sens. Mais moi, pour moi, maintenant, Zach Brown, il va attendre pour se demander qu'est-ce que fait Verstappen l'an prochain. Parce que l'information super importante aussi, c'est que Mercedes a verrouillé ses pilotes. Mmh. Ça veut dire que Toto Wolff est allé au bout de ce qu'il pouvait faire avec le clan Verstappen. Verstappen a dit non, je vais attendre. Et il a signé donc pour plusieurs années Antonelli et Russell. Ça veut dire que Verstappen est bloqué. Ça veut dire que Verstappen aura comme échappatoire McLaren ou Aston Martin dans les années à venir, parce que il attendra de voir ce que fait Ferrari. Il n'ira pas parce que la voiture est rouge. Ça marchera pas comme ça. Il l'a déjà dit. Bon. Et là-dessus, en fait, je trouve que depuis 5 Grands Prix, Piastri s'est considérablement affaibli. De par son statut et sa position chez McLaren.
On va passer, si tu le veux bien, à ce Grand Prix du Mexique du point de vue de la direction de course. J'avais envie de commencer par un caramba encore raté. Parce que faut quand même bien reconnaître que ça a été assez compliqué, hein, ce 20e Grand Prix de la saison, marqué par une course tumultueuse, des pilotes qui ont pris des libertés avec les limites de la piste. Surtout dans le premier tour où tout le monde sait qu'il y a quand même une certaine mansuétude de la part des commissaires. Alors ils se sont fait leur petite tambouille entre eux en sortant du premier virage, en gagnant des places, puis en laissant repasser certains de leurs adversaires. Ouais, si bien que George Russell, c'est lui qui a le mieux résumé la situation, il a dit c'était une course de tondeuse à gazon. Ouais, il est en forme en ce moment.
Là, moi, je me suis dit, c'est des grands gamins dans un parc d'attractions.
Ah, mais c'était vraiment ça.
Voilà, il n'y a personne pour les surveiller, il n'y a pas un adulte, rien, ils font n'importe quoi.
Ouais, c'est ça, on est
et
bien
d'accord. Et puis à la fin, à l'écouter, ils ne se font même pas taper sous les doigts. Enfin, s'il y en a un, il s'est fait taper sous les doigts.
On va y revenir.
Un petit peu fort, mais autrement, si rien ne change sur la configuration du circuit, on remet une pièce dans la machine l'an prochain.
Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, mais on pourra y retourner l'année prochaine si rien ne change. En fait, c'est surtout au sixième tour. Bon, il y a déjà eu ce premier virage où ils arrivent à 4 de front, Verstappen finalement élargi, Leclerc aussi ressort premier alors qu'il était troisième en rentrant dans le virage, laisse passer Norris parce que là c'était quand même gros, mais ne laisse pas repasser Hamilton parce que de toute façon on va pas porter plainte en interne chez Ferrari. Bref, c'était un peu du n'importe quoi, mais bon, soit c'était le premier virage, passons. C'est surtout au sixième tour que les commissaires ont eu quelques sueurs froides quand Max Verstappen attaque Lewis Hamilton pour la troisième place au freinage numéro 1. Contact. Hamilton prend l'échappatoire mais ne suit pas exactement le tracé prévu. Je sais pas si t'as vu le tracé, c'est la largeur de la voiture.
Ouais,
hein, c'est
une voiturette de golf. Là,
c'est ça, c'est une voiturette de golf qui peut passer. Une F1, c'est plus compliqué. Donc, on ne va pas sanctionner Lewis pour le contact.
Logiquement, oui.
Heureusement, on va pas sanctionner non plus Verstappen pour le contact. J'ai été un petit peu surpris quand même parce que c'était border. Mais par contre, on sanctionne Lewis Hamilton de 10 secondes parce que, en fait, il en coupant la trajectoire, il aurait gagné un peu trop de temps. Honnêtement, il y a un moment, moi, j'y comprends plus rien parce que, alors, certes, avec les nouvelles règles qui nous avaient été édictées, on voit bien que Verstappen a quelques centimètres l'axe des roues avant devant celui de Lewis Hamilton. Donc en fait, c'est lui qui a la priorité. Il arrive trop vite, il vient toucher Hamilton, mais à la fin des fins, c'est Hamilton qui est quand même pénalisé dans cette histoire.
Et la règle dit qu'il doit pouvoir contrôler sa voiture après le point de corde, ce qui est le cas aussi avec...
Ah, il ne contrôle pas tout à fait puisqu'il va au contact, donc il ne la contrôle pas.
On ne peut pas dire qu'il était en freinage trop.
Il n'était pas
tardif.
En perdition. Il n'était pas très loin, mais il n'était pas en perdition.
Et il joue avec ça. Et dis-toi une chose, dans ces circonstances-là, moi, quand je vois ça, je me dis toujours la même chose. Verstappen, il est très intelligent. Il connaît très bien le règlement. C'est le plus fort. C'est celui qui se fait pincer le moins souvent parce que il connaît, il sait jusqu'où il peut aller. Et puis, quand il prend 5 secondes ou 10 secondes de pénalité, il sait qu'il est allé trop loin, mais ça lui arrive moins souvent qu'avec les autres. Bon. Et il est très intelligent, c'est une science de la course. Et puis sur d'autres points du règlement, on voit aussi qu'il connaît ça sur le bout des doigts. Il pourrait être directeur sportif en Formule 1, il connaît le règlement par cœur.
Mais encore une fois, tu pourras mettre un pilote qui vient de descendre de la voiture en tant que représentant des pilotes chez les commissaires sportifs. C'est impossible à arbitrer tout ça en temps réel et de manière parfaitement claire parce que les actions elles-mêmes, tu vois, on vient de le dire, cette action, elle est vraiment limite. Verstappen, il est ultra fort parce qu'il arrive vraiment juste à prendre les quelques centimètres qu'il faut sur Hamilton pour être finalement du bon côté du droit, mais est-ce qu'il l'est totalement? C'est infernal. Je trouve qu'on n'y arrive plus.
Moi, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que ça prenait du temps pour déclarer des notes. hein, publier des notes et puis déclarer des enquêtes ouvertes.
Ah oui, il y a tout un process à faire.
Il y a, sur certains faits, ça durait 10, 12 tours. Et puis, à côté de ça, bon, on s'intéressait à des incidents annexes qui passaient avant. Mais ça, c'est encore une fois normal parce que le principe à la FIA, c'est de prendre les événements les uns après les autres. Je vais te citer quelque chose de très, très simple. S'il y a trois limites de piste qui sont jugées tendancieuses et que la quatrième est vraiment ne prête pas
à discussion,
discussion, ben tu dois quand même juger s'il y a eu sur les trois premières limites de piste effectivement une infraction pour prononcer une pénalité sur la quatrième qui est évidente. Donc il y a une sorte de procédure où les événements sont liés à un moment. Et tu es obligé de les prendre en compte. Et puis, par respect aussi pour les autres pilotes, tu dois juger tout le monde équitablement,
mais ça arrive tard. Je suis d'accord. Sauf que là, il y a l'accrochage entre...
Et tu as l'impression que les gens sont dépassés parce que on prend en compte après trop de data.
Oui, bien
même
sûr.
Des données GPS, etc. Est-ce qu'il est arrivé trop
vite? Et il n'y a pas le temps. Ou alors, il faudrait arrêter la course, dire, attendez, on regarde. Et
la FIA a fait une cellule de visionnage en Suisse,
ouais.
Pour assister les gens sur place. Et en fait, on a l'impression qu'on est revenu 3-4 ans en arrière.
Ça rajoute un maillon.
Voilà, et qu'on revient toujours sur les mêmes problèmes, les mêmes discussions, où ça prend du temps. Et puis pendant ce temps-là, tu laisses aux gens aussi le temps de gérer ça, ce qui est complètement hallucinant. Et même, moi, dans l'esprit, ce qui me pose problème, simplement, c'est qu'il y a une forme de désinvolture. Les pilotes, en fait, maintenant, ne freinent plus correctement sur... des départs quand ils savent qu'ils ont un joker. Et c'est ce qu'a dénoncé George Russell. Ils savent qu'ils ont un joker, ils le prennent tout de suite.
Oui, oui.
Ils en prennent même deux ou trois, ça pose pas de problème. On fait les voyous, et puis après on voit, et puis on dit, ah ouais, non, là, ça c'est trop vu, je vais rendre la position. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a infraction, donc il y a pénalité. Et là, je me disais, il manque au minimum, de toute façon, un long lap. Et tu rends pas la place en gérant ça, t'as une sanction. C'est-à-dire que le long lap, ben, tu peux perdre deux, trois places. Et là, sur une action où tu vas trop loin, tu sais que tu vas trop loin, ben, tu dis, je vais gagner une place, mais si on m'oblige à la redonner, je vais peut-être en perdre trois.
Je l'avais pas vu venir, celle-là. Tu me l'avais pas, tu m'en avais pas parlé.
On avait parlé des longues laps. On avait déjà parlé des longues laps sur certains circuits. Ça serait tout à fait possible de les aménager. En moto, ça marche très, très bien. En Formule 1, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué, mais bon, voilà. Mais je me dis encore, ces gens-là, mais sortent complètement de la piste, coupent, hein. J'en reviens au Grand Prix du Japon, 89. Senna disqualifié parce qu'il a coupé une chicane. Et on lui dit, tu n'as pas fait la distance réglementaire du Grand Prix, blablabla. Et là, maintenant, on est sorti complètement de ça. On a oublié ça. Et on a des gens qui coupent tout droit en disant, on va bien voir. Et si ça se voit trop, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et moi, j'aimerais qu'il y ait une pénalité qui tombe assez vite, systématiquement. Basta.
Moi, je suis d'accord pour qu'on modifie le circuit. J'en reviens, je sais.
C'est ce que réclame George Russell. Je pense qu'on en viendra à ça quand même raisonnablement parce que là, c'est même trop tentant.
Mais sincèrement, enfin, moi, j'avais pas pensé au long lap. Je suis pas forcément très très séduit. Je veux bien essayer d'y réfléchir. Mais remettez-nous. Je vais encore. Excusez-moi, hein, je vais repartir sur la même rengaine. Mais remettez-nous des bacs à gravier.
Mais c'est ce qu'a dit Jean Russell.
Mais oui, je suis d'accord avec George.
Ah ben, premier virage à Spa, ils ont mis du gravier.
Bien sûr. Ouais, y a plus rien. C'est terminé. Voilà. Je suis désolé.
C'est tout.
Vous mettez du gravier dans cet enchaînement 1, 2, 3. Vous mettez du gravier dans l'enchaînement 4, 5, 6. Et il n'y a pas ces histoires de ah, je survire un peu, hop, j'ouvre le volant, je tire tout droit, ouais. Je m'égase, ouais. Et je revois après où je m'intègre.
Et puis tu mets un gravier, c'est punitif, mais à Spa, cette année, il y a eu zéro abandon. C'est une première dans l'histoire du Grand Prix.
Parce que c'est quand même des pilotes professionnels.
Donc, ils sont
pros, quelques-uns.
Mais ils savent jusqu'où est-ce qu'il faut pas aller, etc. Et ils font suffisamment de simulateurs aussi, ils sont suffisamment entraînés, ils savent où ils mettent les roues, etc. Mais tu leur donnes une possibilité, une largesse, ils l'apprennent. C'est logique.
Bon. Et alors, je veux bien croire hein, que les dégagements bitumés, c'est pratique parce que ça fait moins de casse, ça oblige à moins faire intervenir
c'est sur la pression des équipes qui ont des sponsors qui disent, moi, si je pars une voiture dès le premier tour, on voit deux fois moins mes sponsors.
Eh ben, prends un pilote qui sort
comme
pas.
Ça. Mais bien sûr. Mais après, il y a plus d'effet punitif. Et puis, quand tu regardes un petit peu tout ça, globalement. Ces pilotes qui se permettent des choses. Alors, il y a George Russell qui a dit, en fait, l'honnêteté, ça paye pas. Moi, je suis resté sur la piste, j'en ai vu qui sortait, et on m'a pas rendu ma position par rapport à Verstappen.
Ouais,
il m'a pas rendu ma position. Il a demandé, et puis à un moment donné, à la radio, il a dit, mais en fait, l'honnêteté, ça paye pas. Globalement, c'était ça. Et puis après, quand même, t'as vu le cirque qu'il a fait à la radio. Là, c'était Radio Punchline, là. Et donc, les pilotes ont des formes de caprices sur tout un Grand Prix. Et c'est un petit peu la dérive de la Formule 1 moderne aussi, où il n'y avait pas de suspense pour la première place, quasiment pas pour la deuxième. Et puis on dit, bah avec ça, en fait, il va se passer des choses. Ça te fait des radios, ça te fait des choses à raconter. Ça excite un petit peu tout le monde, mais on est sur des problèmes un petit peu périphériques. Mais
ça fait causer.
Et
quelque part, on y participe un petit peu en parlant là.
Non, parce que nous, on le déplore quand même. Et
je suis d'accord.
On a commenté le débrief du Grand Prix de Monaco, où les deux dernières éditions ont été d'une nullité atroce, il faut le dire. Ça fait pas plaisir, mais il faut le dire. Mais le promoteur du Champagne du Monde dit, mais regardez le parterre de stars qu'on a au départ, etc. C'est formidable, c'est génial. Donc la course est devenue, c'est pas très grave. Et puis après, si on trouve des artifices pour faire parler quand même, eh bien ça va exciter quand même un petit peu les gens qui ont envie de commenter ça. Je suis pas tellement pour ça. Moi, j'aurais effectivement aimé un premier virage propre, et puis on aurait vu après chacun, enfin, une course se dessiner intéressante, plutôt que de se demander pendant 10-12 tours, est-ce qu'un tel va être sanctionné ? On en était là, quoi.
Moi, je milite. Mettez des bacs à gravier au Mexique là sur les deux premiers enchaînements, et on voit ce que ça donne. Juste une année, et on voit ce que ça donne. Je suis absolument persuadé que ça réduirait ce nombre de choses où. À un moment, les commissaires sportifs, ils peuvent pas tout faire en même temps. Il faut que le circuit redevienne l'arbitre d'une course de Formule 1. Voilà. Il faut pas qu'il y ait un autre arbitre, si c'est Pedro Lamy, si c'est Vito Antonio Luzzi, si c'est machin ou machin. On s'en fout. L'arbitre, c'est le circuit, c'est les limites de la piste. Une voiture qui sort, elle est sanctionnée par le circuit lui-même. Et là, tu règles tous les problèmes. Alors après, ça sera encore plus difficile de produire des dépassements. Faut peut-être réfléchir aussi à modifier les autos pour faire qu'elles se suivent d'un petit peu plus près, pour pouvoir provoquer des dépassements, en mettant un diffuseur standard pour tout le monde, le même pour tout le monde. On a des ailerons au-dessus des roues qui sont les mêmes pour tout le monde. Bah, tu fais un diffuseur standard qui fait moins de turbulences. Les voitures peuvent se suivre de plus près.
Oui.
Et elles peuvent se dépasser avant les revirages.
Je pense que le problème aussi là qu'on a aujourd'hui, c'est que on a développé les critères de dépassement, sortie de piste ou pas, etc. Et on a maintenant en fait on n'a plus de pilotes commissaires qui ont une certaine autorité pour dire c'est pas dans l'esprit du règlement, il doit être sanctionné. Je sors un peu de la lettre même du règlement pour sanctionner. Parce que aujourd'hui, alors c'était Pedro Lamy qui était commissaire. Alors, Pedro Lamy, il a fait 32 Grands Prix dans sa carrière pour 15 abandons. Il a marqué un point. Il a piloté dans des écuries de troisième zone. On peut pas dire qu'il a une grande expérience de ces choses-là.
Mais je suis d'accord. Mais même si tu mettais Sébastien Vettel, ça serait exactement
non,
la même chose.
Non, parce que ces gens-là, justement, auraient une autorité. Là, il y a Vito Antonio Luzzi qui fait du bon travail. Bernoldi, c'est pareil, 28 Grands Prix, 18 abandons. Warwick, 146 Grands Prix, 84 abandons. C'est-à-dire que c'est des gens qui rentraient au garage très vite quand ils faisaient la course. Bon, et là,
Warwick, non, mais il était vieux. J'étais jeune déjà. Donc
on n'a plus un Emanuele Pirro qui a gagné combien 3 fois les 24 heures du monde, qui a une certaine autorité, qui est capable au Grand Prix du Canada de dire je pénalise Vettel dans une Ferrari. Ça fait un pataquès en Italie, mais des gens qui prennent sur eux pour dire j'ai compris ce qu'il a fait, et sur les datas après, ils ont vu qu'effectivement Vettel était en contrôle total de sa voiture et qu'il était sorti et qu'il était surtout revenu pour barrer la route à Hamilton. Et des gens comme ça qui disent voilà, moi c'est comme ça que ça se passe et je comprends et j'ai pas besoin de data, je comprends l'esprit, je trouve qu'on y gagnerait. Et là, le problème un petit peu de la Formule 1, c'est que je pense que les commissaires sur les circuits, ça doit pas être marrant d'être enfermé dans une salle d'opération pendant trois jours à visionner, revisionner des actions, etc. Ça doit être fatigant. Je sais pas si c'est très 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 bien rétribué, mais il n'y a pas de sommité de grands pilotes qui s'intéressent à ça. Et je trouve que des gens qui ont une grande carrière devraient se dire aussi, je donne un petit peu, je rends ce qu'on m'a donné sur les circuits. J'y vais pendant 4-5 fois dans l'année. C'est pas non plus le bout du monde.
D'accord.
Et j'aurai une certaine autorité. Parce que sur des cas comme ça, on dit qui décide. Alors là, Bernoldi, ah d'accord, c'est qui? Les gens ne savent même pas. Warwick, c'est pareil. C'est, bon, voilà. Donc, on est aussi sur des cas de figure où.
Pour moi, ce n'est pas un problème d'homme.
Non, mais si tu avais un Niki Lauda qui était là-dedans en disant « j'ai pas besoin de data, moi j'ai compris ce qui se passe et c'est 5 secondes de pénalité ou c'est 10 », là, là ça serait, le débat serait réglé tout de suite.
Bon, mais bref, là, on a faut faire attendu. Quelque chose, faisons quelque chose. Mettons nos satanés bac à gravier et on voit ce que ça donne.
On est sur le toujours, hein, c'est un dossier qui est ouvert à la FIA sur des commissaires permanents.
Oui,
à la FIA sur les 24 rien. Grands Prix pour dire « voilà, ça on décide ça, etc. » Je sais pas.
Alors, on va lâcher ce sujet pour parler de la jeunesse en Formule 1, parce que il y a eu quand même une belle performance de la part d'Oli Biermann ce week-end au Mexique, qui est allé chercher la quatrième place et qui, grâce à ses 12 points ramenés du Mexique, est passé devant son coéquipier Esteban Ocon au classement des pilotes. Il est maintenant 13e alors que le Français est 16e. On a trouvé ça assez symbolique et on s'est dit tiens, on va s'intéresser au parcours des débutants avant d'entamer les quatre derniers des derniers Grands Prix. Donc on commence par Oli Biermann. Sur la première moitié de saison, moi j'ai eu le sentiment qu'il était dans l'ombre des autres débutants. On a vu un Antonelli flamboyant, un Hadjar qui était quand même assez surprenant. On va en parler hein, de Kimi Antonelli et de Isaac Hadjar un petit peu plus tard. Mais il a subi quand même Oli Biermann. Si je reprends sur la première partie de la saison, donc jusqu'en Hongrie, il encaisse un 27-8 face à Esteban Ocon.
En termes de points.
Oui. Et depuis la reprise, le rapport de force il s'est totalement inversé en termes de points. 24-3 pour le Britannique, qui avait laissé échapper quelques opportunités. Il n'était pas clutch comme disent les Anglo-Saxons. Là, faut reconnaître qu'il a été ultra solide au Mexique. Je rappelle qu'il a 20 ans, c'est quand même bluffant. Est-ce que cette inversion du rapport de force là par rapport à Esteban Ocon, tu le retrouves aussi toi dans tes datas, Stéphane ?
Alors oui, globalement. Alors je me suis complètement planté en début de saison sur nos paris quand on avait dit à quoi pourrait ressembler cette saison. J'avais donné une victoire d'Antonelli et puis j'avais dit aussi.
C'est pas
je
terminé.
Pense que chez. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que chez Haas, Ocon aura vraiment la main, éteindra complètement Biermann. C'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas.
C'est assez surprenant. Alors, il y a eu l'introduction d'un nouveau plancher Ocon a du mal à accommoder à son pilotage. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et la Haas est sur un mode on-off et les pilotes sont rarement tous les deux en même temps, en phase avec la voiture. Donc c'est un balancier, hein, sans arrêt. Mais n'empêche que Biermann tire son épingle du jeu et je vois les duels en qualif, ça fait 11-8 par rapport à Ocon, c'est solide quand même. Et puis en course, ça fait 32 points à 30, tu l'as dit, maintenant il l'a rattrapé, il l'a même légèrement dépassé. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en qualif cette année, effectivement, Ocon avait la main. Au début de saison et puis tu vois le rapport de force qui passe d'un seul coup en Espagne du côté de Biermann et qui a pris maintenant le pas, qui est devenu un petit peu pas le patron mais qui est devenu maintenant un vrai pilote solide chez Haas alors que normalement c'était Ocon qui était le pilote de référence. Ils ont deux numéros 1 maintenant chez Haas et ça doit être un petit peu difficile à vivre quand même pour Esteban Ocon.
Ouais, qui se débat avec un train arrière, il a du mal à stabiliser
tout à fait.
Le train arrière de
mais
la voiture.
On en revient à Biermann, plus que des chiffres, je retiens l'appréciation de Fred Vasseur. Bien joué, Oli Biermann, qui fait partie de notre famille en tant que membre de la Ferrari Driver Academy.
Mm-hmm.
Voilà.
Okay.
Il a été rapide toute la saison en commettant occasionnellement des fautes, mais il a fait un week-end vraiment exceptionnel. Et ça veut dire que
c'est remarqué,
il est un petit peu dans les petits papiers de la Scuderia Ferrari, Hamilton. On verra ce que ça fait l'an prochain, s'il signe un contrat ou pas, etc. Mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et chose plus exceptionnelle encore,
c'est peut-être aussi
c'est chez Sauber. Je te coupe juste deux secondes. Jonathan Whitley, le directeur technique, qui a dit impeccable, Biermann, bravo. Il a géré ses pneus de façon brillante. Il a tenu à souligner, et même le travail qu'a fait Haas, ils ont fait un travail fantastique qui les a doublés au championnat des constructeurs. Et je trouve ça rare de la part d'un directeur d'équipe de reconnaître le mérite.
Adverse. Absolument. C'est bien.
C'est rarissime, ça veut dire quelque chose quand même. Donc, Berman qui s'était fait remarquer avec une 7e place au pied levé en Arabie Saoudite, je crois, l'année dernière.
En remplaçant Carlos Sainz.
Tout à fait.
Qui avait eu l'appendicite.
Bon, tu sais jamais ce que c'est parce que la Ferrari est une très très bonne voiture, quoi qu'il arrive. Mais là, maintenant, en fait, il est en train de sortir vraiment cette équipe un petit peu de ce ventre mou et la placer aux avant-postes. Moi, j'ai cru au podium.
Donc, clairement.
C'est remarquable. Petit warning pour notre ami Esteban Ocon quand même, parce
qu'il faut faire attention. Ben oui, parce que regarde, depuis la reprise, j'ai repris donc Pays-Bas, Monza, Azerbaïdjan, Singapour, Austin, Mexique. Esteban Ocon 12e aux Pays-Bas, Birman 6e, Monza, Esteban 15e, Birman 12e. En fait, à chaque fois, il fait mieux, que ce soit dans les points, comme ça a été le cas pour les deux voitures au Mexique ce week-end, ou en dehors des points. Il est toujours un cran devant maintenant et clairement ça va mettre un petit peu sous pression Esteban.
Et j'avais du mal à le considérer au départ, Berman, parce que il a quand même fait des énormités, non-respect de drapeau rouge à Monaco et à Silverstone surtout. Là c'était lunaire et il était proche de la suspension. Et ça ressemblait beaucoup à un pilote qui se dispersait un petit peu, qui n'était pas centré sur son travail, sur la discipline. Et je pense que maintenant, il est rentré dans tout ça. Ça lui a servi parce qu'il a été propre, il a été nickel. Et 20 ans, tu le dis. Là, il arrive à maturité dans une première saison complète. Alors, j'ai entendu qu'il était rookie. Il a quand même 32 Grands Prix au compteur. Donc, c'est bien plus qu'une saison de Formule 1 déjà. Mais ça reste un jeune pilote, c'est certain. Et prometteur.
Et ça permet donc à Haas de revenir à 10 points de la 6e place, occupée par Racing Bulls. Il y a une belle bagarre pour la 6e place. C'est un petit peu plus loin, évidemment, mais Racing Bulls, Aston Martin, Haas et Sauber, tout ce beau monde se tient en 12 points. Les 4 derniers Grands Prix vont valoir cher. On a parlé d'Oli Birman, on va parler de Kimi Antonelli qui a sans doute été le premier finalement à s'illustrer. On se souvient de sa 4e place pour débuter en Australie. Kimi Antonelli qui est 7e du classement des pilotes avec 97 points. C'est donc le mieux placé.
C'est lui factuellement qui terminera meilleur rookie. Parce qu'il y en a 3 des rookies simplement, Hadjar, Antonelli, Bortoleto. Donc fatalement, il a une Mercedes.
C'est un peu plus facile que dans une Alpine, par exemple. On a tous en tête le petit recadrage que Kimi Antonelli a subi de la part de Toto Wolff après que l'Italien ait connu quand même un gros trou d'air, un point marqué sur les 4 Grands Prix avant la trêve estivale. Il a quand même réussi à se relancer, même si... alors moi, il y a un chiffre qui m'interpelle un petit peu. 355 points au classement des constructeurs pour Mercedes. Antonelli en a marqué 97. Oui. Ça veut dire 27% des points de Mercedes ramenés par Antonelli. C'est un peu faible. J'ai envie de dire, c'est plutôt 2/3 pour le pilote numéro 1 et 1/3 pour le débutant. Là, on est un petit peu en dessous.
Russell est l'un des 3 pilotes sans abandon cette année et Antonelli a eu un petit coup de 2 ou 3 coups de malchance quand même qui ont causé des abandons. Mais ça aurait gonflé un petit peu son score, mais pas au point de rééquilibrer vraiment le rapport de force avec Russell qui reste extrêmement désavantageux en qualification. C'est du 18 à 2 pour Russell. Wow. Alors, on relativisera ça avec la grille type qu'on va vous donner juste après. Et en Q3, quand même, Antonelli, il fait le job. 14 présences en Q3 pour un jeune pilote, là où on sait que ça joue au 10e près. C'est bien, contre 19 présences pour Russell, c'est du solide. Russell, maintenant, on sait, c'est un cador, c'est un champion du monde en puissance. Mmh. Hein, s'il a le matériel, il ira au bout. Ça, il n'y a pas de problème.
Champion du monde des courses de tondeuse à gazon.
Mais il a eu 2 prestations à marquer. Là, je voyais les nominations aux élections pilote du jour. Il a été 2 fois pilote du jour. C'était mérité. C'est fait remarquer 2 fois. Je crois que Bortoleto aussi, il a eu 2 fois. Tout ça, ça se tient quand même. Et c'est vrai que sur le détail de la saison, il n'a pas existé réellement. Il a battu 2 fois Russell. Autrement, c'est une litanie de meilleur temps pour Russell chez Mercedes, à part Miami et l'Azerbaïdjan. Bon, mais c'est un pilote maintenant, je trouve qu'il s'est un petit peu plus lissé. Il est un petit peu moins brut de décoffrage. Ouais. On verra, mais après, on n'échappe pas à son style de pilotage qui est quand même taillé à la serpe. On verra. C'est quelqu'un qui, je trouve qu'il prend du volume quand même.
En tout cas, il a été reconduit chez Mercedes. Ça va lui laisser
plusieurs années.
Ça va lui laisser un petit peu de temps. On va parler, si tu veux bien, de Gabriel Bortoleto, maintenant, 19e du championnat, avec un total de 19 points. Alors, pour vous être honnête, c'est quand même, moi, j'ai trouvé un petit peu difficile de lire la performance du Brésilien, parce que on ne sait pas exactement où elle en est, cette Sauber. Il y a deux chiffres qui me paraissent intéressants. 19 points sur les 60 de Sauber, ça veut dire qu'il a ramené 31,7% des points de son équipe. On était à 27 pour Antonelli, donc c'est un petit peu mieux dans le ratio pour Bortoleto. Et alors, il y a un autre point sur lequel je me suis intéressé, c'est la progression en qualif. Sur les 10 premiers Grands Prix de la saison, Gabriel Bortoleto était en moyenne 15,9 sur la grille.
16e, oui.
Voilà, 16e, on va dire. Et sur les 10 Grands Prix suivants, il était 12e en moyenne sur la grille. Ça fait quand même 4 places de gagner.
Ça veut dire que tu rentres en Q2 facilement.
Voilà.
Et, c'est autre chose, hein. C'est un autre monde.
Et ça veut dire que ça lui permet de rentrer dans les points plus régulièrement. Je trouve qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a une belle progression chez Gabriel Bortoleto.
Sur notre tableau de bord qui résume un petit peu le rapport de force, duel en qualif 12-8, Bortoleto, c'est quand même assez inattendu. Alors, Hülkenberg, ça n'a jamais été un tueur sur un tour, mais quand même...
C'est quand même Hülkenberg. Voilà,
se poser par rapport à quelqu'un comme ça. Et puis, la Sauber, surtout, a vu 4 fois la Q3, et c'est le fait de Bortoleto, bien joué, franchement. Des points... il a la moitié des points d'Hülkenberg, c'est à peu près raisonnable quand même. Et puis, ce qui est quand même assez marrant, là encore, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un qui a pris la mesure de son matériel, beaucoup de circuits qu'il ne connaissait pas en début de saison. Et ça, c'était à l'avantage de d'Hülkenberg. Et on voit vraiment qu'il y a une inversion de tendance qui s'est opérée à Miami et qui s'est confirmée en Espagne, même si les 3 derniers Grands Prix, c'est Hülkenberg qui a eu le dernier.
Revenu. Ouais.
Mais 12-8, c'est quand même assez net. Bonne pioche de la part de Mattia Binotto qui s'est quand même laissé séduire par Fernando Alonso qui lui a vendu le produit clé en main. C'est un futur grand.
Parce que Alonso est le manager
de Bortoleto.
J'étais dubitatif et honnêtement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer pour Gabriel Bortoleto. Alors, il nous en reste 2 à voir. Franco Colapinto et Isaac Hadjar. Je te propose de commencer par Franco Colapinto.
Oui,
et puis on terminera par le français.
Parce que c'est aussi un jeune pilote qui a un petit peu quand même quelques grands prix aussi avec derrière la ceinture chez Williams.
Ouais, auparavant,
l'année
dernière.
Et je trouve qu'il n'est pas si loin du compte que ça. Alors, en qualif, c'est du 9 à 5 pour Gasly.
Ça, j'ai été très surpris.
En Q3, par contre, Gasly, 7 présences en Q3, 0 pour Colapinto. C'est moins surprenant. Moi, j'avais complètement oublié qu'une Alpine était capable d'aller
en
Q3. Complètement. Et puis, c'est du 20.0 en course. C'est évident. C'est le manque.
Faut s'appeler Pierre Gasly pour aller dans les points avec une Alpine en ce moment.
Ah bien sûr. Et c'est pour ça que là, c'est sur ce score-là que Colapinto va perdre sa place de toute façon. Ou alors, il y a d'autres intérêts qu'on ne connaît pas, qu'on ignore, mais il ne serait pas jugé seulement sur le plan sportif. Et puis on voit qu'effectivement, sur la répartition, Colapinto arrive quand même à exister. Donc c'est quelqu'un qui fait des efforts. Il y a même une triplette, je vois Italie, Bakou, Singapour, où il était le meilleur des pilotes alpines. Ça racle quand même les fonds de grille. C'est un petit peu embêtant. Mais par rapport à ce sentiment qu'on avait où il se perçait beaucoup, il faisait beaucoup de casse
aux effets,
zéro abandon en course. Donc il va au bout, mais c'est jamais dans les points.
Bon, mais je serais pas surpris qu'il reste. On en reparlera. Il va se passer pas mal de choses d'ici la fin de.
Polaron a fait sa 4e sans essai libre.
Et c'était intéressant.
Donc c'est pas pour rien non plus que Briatore le pousse. On verra.
On termine par Isaac Hadjar. On a gardé le français pour la fin. Isaac Hadjar donc a comparé avec Liam Lawson. Je trouve que c'est difficile aussi de savoir exactement ce que vaut en ce moment la Racing Bulls. C'est Racing Bulls qui mène cette bagarre pour la 6e place avec donc 3 petits points d'avance sur Aston Martin, 10 sur Haas et 12 sur Sauber. Il a été bluffant sur la première moitié de saison en termes de performance, en termes d'exécution, même si de temps en temps on avait des stratégies qui, moi, me surprenaient un petit peu. On l'a propulsé quasiment d'office l'année prochaine chez Red Bull. Alors, je dirais pas que c'est remis en cause, mais Laurent Mekies a quand même souligné que Yuki Tsunoda a fait son meilleur week-end au Mexique. Ce que l'on voit aussi, c'est que sur la longueur des saisons, c'est difficile de tenir une constance quand on fait sa première saison. Et il a en face un Liam Lawson, Stéphane, qui lui donne du fil à retordre.
Oui, alors Hadjar, c'est le seul rookie ou jeune pilote en fait qui a pris la mesure de son coéquipier tout de suite. Il est devenu le patron, il a pris le pouvoir directement, alors que Lawson avait quand même une expérience sur des fins de saison, il connaissait certains circuits. Hadjar, il apprend tout. Quasiment en permanence, sauf sur les circuits européens. Il a fait de la F2, bon, voilà.
Les duels en qualif. Et puis les circuits où il a fait les premières séances d'essais libres auparavant.
Effectivement. Et duel en qualif, c'est du 13-5, c'est net. En Q3, il a 11 présences, ce qui est quand même extraordinaire pour une Racing Bulls.
En 20 Grand Prix.
11 contre 6. Et puis, en termes de points, c'est ça qui me surprend un petit peu. Eh ben, 39-30, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Ça veut dire qu'au bout du compte, quand même, Lawson, il arrive à rentrer des points et c'est ce qu'on lui demande chez Racing Bulls, ouais. Parce que des points, c'est un bon classement au championnat du monde et c'est des millions d'euros
à la clé.
Reversés en termes de droits de la part du promoteur. Et je vais te dire, c'est pour ça qu'il va garder sa place et qu'on le retrouvera l'an prochain chez Racing Bulls.
D'accord.
Avec Hadjar, parce que c'est devenu quand même un secret de polichinelle, même si
Avec Marco, Hadjar, tu veux dire Hadjar.
Avec Hadjar chez Red Bull. Red Bull avec ouais. Verstappen. Je pense que c'est terminé pour Yuki Tsunoda qui insiste quand même à chaque fois maintenant qu'il a fait un beau Grand Prix, solide, etc. Marco avait prévu de prendre une décision après le Grand Prix du Mexique. C'est ce qu'il avait dit à 4-5 Grands Prix.
Et ça a été repoussé.
Ça a été repoussé parce qu'il ne faut pas s'aliéner, en fait, Yuki Tsunoda qui a pété un plomb à Austin en accusant Lawson, en fait, d'être tout le temps dans ses roues, de oui. vouloir le gêner. Ouais. Il a dit, c'est pas compliqué, il le fait exprès, tout le temps, il fout la merde. Il est tout le temps dans mes roues. Et bon, il s'est excusé après, mais ça veut dire que là, la marmite est en train de bouillir et ça fait un moment, il sait qu'il va perdre sa place. Mais si tu lui dis tout de suite c'est terminé, ça c'est sûr qu'il ne sert plus à rien. Et si jamais il peut servir une fois ou deux d'ici à la fin de la saison, à bloquer ou etc., il ne faut pas s'en priver.
Et je rappelle la bagarre pour la deuxième place au classement des
Bien
constructeurs.
Bien sûr, et je me souviens de la contribution de Perez qui avait servi à peu près deux fois dans la saison en 2021 en Turquie et à Abu Dhabi. Et ça s'était avéré déterminant. Il avait vraiment pourri la course d'Hamilton. Ben, c'est ce qu'ils espèrent encore de la part de Tsunoda chez Red Bull. C'est pour ça qu'on le maintient un peu sous perfusion. Mais pour le reste, c'est réglé. Surtout que sixième temps d'Arvid Nimlad en essai libre 1 avec des commentaires mais absolument dithyrambiques de la part d'Helmut Marko en disant que son retour technique avait été absolument brillant. Impressionnant, très impressionnant et qui a eu une grande influence sur les réglages adoptés ensuite. Je rappelle, Verstappen était perdu la première journée.
Ouais.
Bon, et Mekies a dit, il a fait un très très bon travail. C'est vrai que c'est quelqu'un qui valorise beaucoup ses pilotes, mais il n'est pas obligé de le dire dans ces termes-là. Et pour bien situer les choses, Lindblad est allé plus vite que Tsunoda. Et Marco a dit, oui, à un moment, ils étaient exactement sur le même programme. En termes de pneumatiques et en termes d'allocation de carburant dans la voiture pendant les essais libres 1. Donc, Lindblad, ça va plus vite que Tsunoda. Donc, l'affaire est réglée et on verra Lindblad l'an prochain. Je pense que ça, c'est plus qu'une formalité, une signature à mettre sur un contrat. Mais là, le week-end du Grand Prix du Mexique a levé tous les doutes maintenant sur l'année prochaine. Il se réserve simplement le meilleur moment pour communiquer, mais il n'y a pas de doute non plus. Et puis, c'est pas maintenant non plus que tu vas remettre en question la candidature d'Hadjar l'an prochain chez Red Bull. C'est pas le sujet.
On termine avec la grille type en se concentrant sur nos rookies. On refera la grille type parce que c'est toujours un exercice intéressant, mais pour tout le monde à la fin de la saison.
Alors tu vois, en fait, Antonelli prend 18-2 de la part de Russell. Il y a trois places d'écart. Et les Ferrari sont aussi à leur place. C'est plutôt Russell qui surperforme, je pense, par rapport à ça.
Ouais.
Donc, c'est pas très inquiétant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Hadjar, par rapport à Lawson, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 places. C'est quand même un petit peu plus conséquent. On voit qu'Hadjar, c'est vraiment le boss.
Une vitesse de pointe peut-être un petit peu plus élevée.
Tout à fait. Bortoleto, bon, là, la voiture est tellement mal positionnée sur la grille que c'est pas très significatif, mais il est un petit peu mieux que Kulkenberg. Et puis bon bah Gasly, Colapinto, ça c'est aussi c'est réglé, ça on le sait, c'est pas une surprise. Mais globalement cette année, je pense à valider les carrières au long cours maintenant de Hadjar, de Bortoleto, d'Antonelli en Formule 1, c'est des gens qui vont prendre certainement pour 10 ans ou plus parce qu'ils font le job, que c'est sérieux, que c'est solide. Et on a toujours un problème de renouvellement des pilotes. Il y a des pilotes de Formule 2 qui restent sur le carreau. On n'entend plus parler de Drugovic, etc. C'est des gens qui sont allés voir ailleurs pour essayer de se relancer. Bon, ben là, on en a 3 bons. C'est au moins, c'est bien et c'est mérité.
Voilà ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix du Mexique. On va se déplacer du côté du Brésil pour la prochaine épreuve. Ça sera le week-end du 7, 8 et 9 novembre, donc pas le week-end qui arrive, celui d'après. Grand Prix de Sao Paulo, toujours très très spectaculaire, avec bon, la météo déjà, qui est le premier acteur de ce Grand Prix, parce que j'ai pas souvenir récemment d'un Grand Prix qui s'est déroulé, d'un week-end qui s'est déroulé sur le sec de bout en bout.
Et c'est comme ça que Magnussen avait fait la pole position.
Ah oui, en 2022, non. Ouais. C'est toujours un Grand Prix.
Quoi. C'est pochette surprise.
Alors, le circuit est quand même assez extraordinaire, ouais. Ultra, avec un dénivelé fabuleux, avec des endroits qui sont vraiment mythiques. Allié à ça, la météo, en général, c'est des grands prix qui valent vraiment le coup. C'est un week-end sprint, d'ailleurs. Oui. Encore.
Alors c'est le 5e de la saison.
Ouais. Oui. Donc les essais libres, ça sera le vendredi 7 novembre à partir de 15h30. Et dès l'après-midi, donc puisqu'on a un week-end de sprint, eh bien il y aura la qualif pour le sprint à 19h30. Samedi, la course sprint à 15h et la qualif pour le Grand Prix à 19h. Là aussi, c'est intéressant parce que vraiment, on va passer de l'un à l'autre tout le temps et c'est des week-ends qui sont ultra nerveux sur un circuit comme ça. Franchement, là, c'est le week-end de tous les dangers. J'en reviens à notre premier sujet pour McLaren.
Et alors, on parlait d'ailleurs, ça c'est assez extraordinaire parce que Red Bull doit travailler de deux façons différentes. On a vu dans les chiffres, Verstappen un meilleur temps en essai libre 1, essai libre 2 et essai libre 3 cette année, c'est peu. Avant de remettre tout en place, de reconfigurer correctement une voiture pour retrouver une dynamique, donc ils auront une séance d'essai libre pour tout mettre en place. Mais Verstappen, si tu regardes bien,
sur les
22
courses
sprint, 13 victoires.
C'est fou, ouais. C'est fou. C'est fou.
Et ceux qui suivent, c'est Bottas, Piastri et Norris avec 2 victoires.
Ouais.
Donc, ça veut dire que c'est vraiment difficile d'exister dans une course sprint à côté de Max Verstappen. On verra, ça changera peut-être.
Alors, l'autre statistique qui est un peu inquiétante pour McLaren, la dernière victoire de McLaren remonte à 2012. C'était évidemment Jenson Button.
La finale de 2012, cette fameuse finale.
Exactement. Ouais. McLaren ne s'est imposé que 3 fois au 21e siècle au Brésil. David Coulthard en 2001, Jean-Paul Montoya en 2005 et donc Jenson Button en 2012. J'ai envie de dire, McLaren joue à l'extérieur au Brésil,
oui,
face à Max Verstappen avec Red Bull. Clairement,
c'est bien dit. On verra comment ça va se goupiller tout ça. On va encore avoir ce fameux facteur de l'altitude, alors moins exacerbé qu'à Mexico. On est à 2227, précisément selon les données de la F1. En altitude à Mexico, là, on est à 767 mètres d'altitude quand même.
Et je crois que c'est le deuxième plus élevé.
C'est le deuxième. Alors, ça veut dire que il y a une perte, en fait, il y a une raréfaction d'1% d'air par tranche de 100 mètres. Donc, c'était 22% d'oxygène en moins à Mexico, ouais. Donc ce qui veut dire que c'est un problème pour le rendement aérodynamique des voitures et pour le refroidissement des moteurs. Là, ça sera 8%. Donc ça reste encore un sujet, un vrai sujet, et qu'il faudra maîtriser. Sur la question des pneus, c'est un cran plus dur que l'année dernière. On verra un petit peu à quoi ça nous mène. Pour un circuit qui finalement est peu agressif pour les pneumatiques, donc pas trop de problèmes de tenue, donc je pense une stratégie,
un arrêt.
Tout à fait. Et puis,
c'est pour ça que ça me surprend qu'on durcisse par rapport à l'année dernière.
Complètement. On espère que Sao Paulo va changer un petit peu la donne, parce qu'on reste quand même sur 6 combos, pole position, victoire cette année. Donc on espère qu'il y aura un petit renouvellement. Et puis 2018, je notais, c'est la dernière année sans intervention de la voiture de sécurité. Donc il se passe toujours quelque chose. Et je crois que les deux dernières années à Sao Paulo, c'était drapeau rouge. La course a été coupée en deux. Donc on verra ça. Et pour les pilotes qui ont dominé, c'est pas extraordinaire. Hamilton trois fois sur un circuit quand même qu'il apprécie particulièrement. Ouais, ouais. Et pour les pole positions, c'est pareil. 3 pour Hamilton, 2 pour Verstappen. C'est vraiment les pilotes qui ressortent. Donc, encore une fois, là, Sao Paulo est parti pour nous offrir un cocktail assez excitant. Et, tu vois, je parle souvent des Grands Prix, des Big Five, les 5 grands circuits, Suzuka, Monaco, Monza, Silverstone et Spa. Et si on devait ajouter
un sixième,
je pense que ça serait Sao Paulo, de par ce qui s'y passe régulièrement, de par son fond d'histoire, la passion qui anime
la ferveur,
ce pays,
tout à fait.
Et c'est toujours un moment génial quand on voit arriver un week-end à Sao Paulo.
Et ben voilà, on vous a tout dit, et du Mexique et du Brésil qui
voilà,
nous
tout
attend
à fait. Et
pendant 10 jours.
Pour patienter.
Allez hop, sors de l'écran et reviens.
Voilà.
Et on revient
avec juste des petites choses pour entretenir la passion.
Ça, c'est la rubrique des mecs qui prennent un petit peu d'avance. Ce n'est pas du tout mon cas. Vous savez, il va y avoir Noël bientôt.
Non.
Bon, moi, en général, je fais les courses le 23 décembre.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est que je vois des éditeurs qui n'étaient jamais positionnés sur le sport automobile, même sur le sport, et qui commencent à faire des livres de formule. Tu te dis, il se passe quelque chose.
Ouais.
Y a un public qui est élargi. On en voit maintenant, il y a de belles offres dans les rayons. On en remarque quelques-unes chez Larousse, Formule 1, à travers les circuits mythiques. Ça, c'est super intéressant.
Bon, on en parlait à l'instant.
Exactement. C'est tous ces circuits. Alors, par exemple, Charade, qui a été l'un des plus beaux circuits du monde dans les années 70, là où se déroulait le Grand Prix de France. Donc, c'était génial.
Qui existe toujours, d'ailleurs.
Tout à fait. Pour balayer 75 ans de Formule 1, il y a plusieurs livres. On en a vu un chez Hugo Sport, de notre confrère Stéphane Barbet.
Oui. Ancien de
Tout à fait. Grand journaliste F1, endurance et tout ce qu'on veut. Et belle iconographie. Donc ça aussi, c'est pareil.
Et
c'est
mec charmant.
Très, très. Ah bah bien sûr. Grand monsieur. Ce qui ne gâche rien.
Bah oui. Hop.
Pour vous dire aussi que. Voilà, on peut aussi parler des collègues.
Ouais.
Tout à fait, ça fait plaisir. Yann Delplanque, dans la boîte à gants, c'est un podcast avec des longues interviews.
Ils sont géniaux.
Et ils ont décidé de faire les versions
écrites.
Alors, Gilles Panizzi, Harry Vatanen, Jackie Stewart.
Il y a Henri Pescarolo ou pas?
Il y a Jet X. J'ai pas regardé complètement.
Henri Pescarolo.
Sébastien Ogier, enfin tout ça. Là, c'est vraiment.
Il y a un numéro du podcast dans la boîte à gants avec Henri Pescarolo où il explique sa nuit dans la Matra sans les essuie-glaces sous des trombes d'eau. C'est pareil. Allez-y.
Voilà. Donc quand c'est bon, quand c'est bien, on en parle.
Oui.
Et tout ça, c'est pour ravir les fans de Formule 1.
Merci Stéphane. Allez, salut.
Pour préparer les emplettes de fin d'année ou tout simplement pour lire 100 tours de Grand Prix pour le plaisir, ce que je fais. Donc la boîte à gants, c'est mon prochain sujet.
Ok.
On va vivre ça. Mais écoute, on sort un petit peu. C'est pas que circuit, c'est pas mal rallye d'ailleurs, mais bon, il y a qu'un pas entre les deux.
Exactement. On vous donne rendez-vous donc le mardi qui suit le Grand Prix du Brésil. Si je calcule bien, ça doit être le mardi 11 novembre.
Exactement.
Et puis d'ici là, Stéphane,
on coupe le contact.